FM, la radio du Loir-et-Cher. Les vendredis et samedis soirs sur Sweet FM, fiesta non-stop. Sweet FM, fiesta club.
Vamos à la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Vamos à la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos à la playa.
Le nageur de 24 ans était déjà monté sur la troisième marche du podium du 100 mètres d'eau mardi. Il s'agit de la quatrième médaille de la délégation française après les titres de Léon Marchand et Maxime Grousset.
France Inter présente...
Savez-vous que la grande exploratrice Ella Maillard a fait du ski en Asie centrale à 5000 mètres d'altitude ? Allez, c'est parti ! Touchous !
Les Odyssées.
Le podcast d'histoire et d'aventure pour les 8-12 ans.
Laure Grand-Besançon.
Harriet Tubman, la résistante qui a sauvé 300 esclaves et l'étonnante voyageuse Ella Maillard. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et surtout, gros bisous.
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS, le GPS et le DAB+. La radio en DAB+, c'est une qualité sonore exceptionnelle. Plus de radio et plus d'infos sur ce que j'écoute. Et sur mon trajet, plus besoin de changer de fréquence. Le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio.
DAB+.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
France Inter, il est 21h04. Vous retrouvez Les Résistantes face à l'histoire avec Philippe Collin.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français.
L'histoire commence à Londres, le 11 novembre 1942.
Honneur et patrie.
Ce jour-là, à 17h, au Royal Albert Hall, devant les Français de Grande-Bretagne, le général de Gaulle prend la parole.
Messieurs, mesdames, je dis que la résistance française a fait échouer le plan politique de Hitler.
Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, l'homme du 18 juin veut asseoir la légitimité de la résistance française face aux nazis et aux fascistes.
Je dis que sans la résistance française, les démocraties ne pourraient pas gagner la guerre. Mais il reste à faire en sorte que cette guerre soit gagnée par elle, avec la France.
Une France libre et unie, unie mais plurielle. La résistance, ce furent des catholiques, des communistes, des gaullistes, quelques royalistes, des socialistes, et puis des hommes et des femmes.
Ainsi, soyons-en sûrs, la France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend, un seul combat pour une seule patrie.
La résistance française s'est inscrite dans la victoire aux côtés des Alliés. Ce fut l'honneur sauvé de la France face à la faillite du régime de Vichy. Néanmoins, cette dignité nationale a surtout nourri la gloire des hommes, alors que cette lutte épique et tragique fut aussi celle des femmes.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Souvent réduite à une poignée de clichés romantiques, comme celui d'une jeune messagère à vélo.
Vous pouvez passer, mademoiselle.
Merci, monsieur.
Ou d'une combattante qui pose avec sa mitraillette en bandoulière. Les femmes dans l'histoire de la résistance française sont longtemps restées invisibles. Or, dans un pays vaincu, humilié et privé en partie de sa population masculine, emmené en Allemagne en captivité dès l'été 1940, les femmes furent les premières à réagir et à initier un esprit d'insoumission.
Si on fait rien, personne ne fera rien. Il faut qu'on s'en sorte.
À travers les destins croisés de cinq résistantes, cette nouvelle série met en scène le rôle crucial des femmes.
C'est des explosifs. Un camarade passera les prendre après-demain.
Dans la lutte intérieure et extérieure, entre 1940 et 1944.
Mes hommages, madame.
Parmi elles, deux figures illustres, Lucie Aubrac et Geneviève de Gaulle. Et trois femmes demeurées dans l'ombre, Mila Racine, Simone Mathieu et Renée Davély. Trois femmes sur lesquelles nous avons fait travailler trois historiens avec des archives inédites.
La route est longue pour Gibraltar.
Destins emblématiques ou méconnus donc, les trajectoires de ces cinq résistantes vont s'entremêler et se répondre.
Elles furent des milliers de Françaises qui ont pris leur part au combat aux côtés de leurs frères, de leurs maris, de leurs fiancés.
Et l'idée la plus importante, c'est de faire apparaître les spécificités de l'engagement féminin face à l'occupation nazie et au régime de Vichy.
Monsieur le maréchal de France,
vive le maréchal !
Plus qu'un documentaire sur les femmes françaises dans la résistance, je vous propose un récit choral et global qui redonne toute leur place aux femmes, aux côtés des hommes. Car la Seconde Guerre mondiale fut aussi l'affaire des femmes.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. Premier épisode, 1923, le putsch de la brasserie.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez ?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les pains de plastique.
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait ?
C'était pour sauver son pays.
Le récit débute en août 2023, à Munich, en Allemagne. Car c'est là-bas qu'Adolf Hitler a surgi pour la première fois dans les actualités. C'était en novembre 1923, il y a tout juste un siècle. Curieux, je me suis demandé où en étaient dans leur vie nos cinq personnages au moment où Hitler a tenté un putsch en Bavière. C'est la trame de ce premier épisode comme un point de départ. Mais d'abord, pour être immergé dans cette Allemagne de 1923, Martin Abbott, notre reporter, a pris le train pour la Bavière. Arrivé en gare de Munich, c'est en tramway que Martin s'est rendu à Leonhardstrasse, au cœur de la ville.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Salut. Vous êtes...
Je suis en avance.
Pas de problème.
Martin Abbott avait rendez-vous avec un historien allemand.
Je m'appelle Thomas Reitl.
Thomas Reitl.
Thomas Reitl. Je suis historien et je suis aussi professeur à l'Université de Munich.
Et pour commencer, nous voulions demander à Thomas Reitl à quoi ressemblait l'année 1923 en Allemagne.
Une année de crise. Une année horrible parce qu'il y a une cumulation des crises liées. Il y a l'inflation, une inflation assez normale à cause de la Première Guerre mondiale, comme partout en Europe. Et c'est devenu une hyperinflation au cours de l'année 22 et 23. L'hyperinflation est devenue un vrai problème pour les gens pendant l'été et l'automne 23. Un kilo de beurre avait le prix de plusieurs milliards
de
marques. Les prix sont augmentés dans une mesure astronomique et quelquefois il y a eu une pénurie des marchandises.
Les habitants avaient du mal à se nourrir?
La partie pauvre de la population. À Munich, c'est très divisé. Il y a bourgeoisie, riche à Munich, pas de problème. Mais pour les ouvriers, pour la petite bourgeoisie, c'était un vrai problème. Et le problème le plus grave était la perte de l'épargne. Beaucoup de gens ont perdu tout. Perdu tout. C'était cruel.
1 milliard de marques actuelles vont être échangées contre un marque nouveau qui s'appelle Rentenmark.
Toutes mes économies sont perdues, monsieur le directeur. Je ne sais plus quoi faire.
Tout ça, c'est encore une manipulation des suppôts du capitalisme et des financiers juifs qui veulent notre père.
Beaucoup de gens ont complètement perdu la confiance dans l'État, dans la société. C'est un contexte vraiment important pour expliquer
la montée
de la nazisme dans les années 22-23.
Unsere Aktion geschieht im Namen des deutschen Volkes.
Ce n'est pas la seule explication. Il y a eu d'autres faits qui sont aussi très importants. La défaite de la guerre, c'est la première cause. Et plus tard, le traité de Versailles, c'est une humiliation pour les nationalistes.
Écoutez, article 100, l'Allemagne renonce à la Silésie, la Prusse occidentale et Poznan. Son armée est réduite à 100 000 soldats, la conscription est prohibée, l'Allemagne abandonne toutes ses colonies, l'Allemagne est responsable de tous les dommages et pertes. Chacun de ces articles est une humiliation.
Ce traité de Versailles, c'est une humiliation. Pourquoi ?
L'Allemagne a été traitée comme un criminel. L'Allemagne a perdu des territoires et toute la situation était humiliante pour l'extrême droite, mais aussi pour la plupart de la population. C'est pour ça que le traité de Versailles est vraiment une cause pour radicaliser l'extrême droite. Aussi la question des réparations, l'idée principale est que l'Allemagne est le coupable. Le coupable doit payer.
Et parmi les réparations, la France a obtenu le droit d'exploiter les mines de charbon de la Sarre, une région allemande frontalière du département de la Moselle. Et c'est là, en Sarre, que vit avec ses parents une petite fille française, notre premier personnage. Elle s'appelle Geneviève de Gaulle.
Donc en 1923, on a cette petite fille qui vient de naître.
Frédéric Naud-Dufour, historienne et biographe de Geneviève de Gaulle.
Elle vit en Sarre. La Sarre, après la Première Guerre mondiale, est un territoire qui a été pris au titre des dommages de guerre par la SDN, la Société des Nations, qui est ce premier organisme international qui essaye de gérer la communauté internationale en Europe et qui va placer ce territoire sous mandat de la France et notamment confier à la France la concession des nombreuses mines qui se trouvent dans la Sarre. Et en tant qu'ingénieur des mines, Xavier de Gaulle arrive près de Sarrebruck en 1922. Et donc la petite Geneviève, en 1923, à l'âge de 3 ans, vit dans cette maison à Landsweiler, une cité minière près de Sarrebruck, aux côtés de sa sœur, qui est née en décembre 1921 et dont le parrain s'appelle Charles de Gaulle. Et puis un petit frère naît cette même année 1923. Donc 1923, c'est l'année de l'épanouissement, d'un début heureux, prometteur, d'une famille unie, dans un endroit qui, cependant, est propre à beaucoup de troubles et de tensions.
Vous aviez le sentiment, Geneviève de Gaulle, d'être en France quand vous étiez en Sarre ?
Ah non, pas du tout.
Archives France Culture, 1995.
Pas du tout. Je ne considérais pas du tout comme la France. D'abord, on passait une vraie frontière. Et la Sarre, comme vous le savez, était administrée par la Société des Nations. Il n'y avait que l'exploitation des mines qui était attribuée à la France. Non, pour nous, c'était une sorte d'exil. Il y avait toujours quand même une sorte de malaise. Parce que... je ne l'ai pas senti quand j'étais toute petite, mais au fur et à mesure que je grandissais, je sentais bien que nous étions des intrus dans ce pays.
Elle est l'aînée d'un couple qui visiblement s'aime beaucoup, qui a beaucoup d'affection. Une maman, Germaine, qui est née en 1898, Germaine Gourdon. Et puis un père, dont le nom évidemment est très célèbre, puisque son père s'appelle Xavier de Gaulle. Il est né en 1887. Et Xavier de Gaulle est le frère aîné de Charles de Gaulle. C'est une fratrie de 5 enfants, 4 frères et une sœur. Et Xavier est l'aîné de toute cette fratrie de Gaulle. À cette époque-là, évidemment, les de Gaulle sont des gens complètement inconnus et vont le rester encore très longtemps. Et ce père, après avoir fait l'école des mines, donc en 1907, puis son service militaire, puis la Première Guerre mondiale, qui l'a retenu quand même un certain nombre d'années, a épousé Germaine et ils vont mettre au monde cette petite fille en 1920.
Passer son enfance dans cette Allemagne en crise aura une importance cruciale dans le futur destin de Geneviève de Gaulle. Mais d'abord, à quoi ressemble sa vie d'expatriée ?
Alors la vie d'une petite fille française dans cette Allemagne de 1920, c'est une vie à la fois normale, dans une famille unie, dans une famille aussi qui vit de façon très aisée. En tant qu'ingénieur des mines, Xavier de Gaulle obtient un certain train de vie. C'est une famille qui a, par exemple, une voiture. À l'époque, ça n'est pas si courant, une voiture décapotable avec laquelle on se promène dans la région. En même temps, c'est une famille qui n'est pas portée...
Vous entendez la détresse ou pas ? Mesdames, les hommes simulent. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, les hommes simulent. Moi, pendant 4 ans, pour la meilleure relation amoureuse, je simulais pendant les fellations. J'étais comme ça.
Oh.
Ah bah merci, hein. Eh ben dis donc, toutes ces dents dans une bouche, c'est quand même fou, hein. Je sors avec Pac-Man, elle me mordit, c'est pas ce qu'elle veut. Elle est là, elle mordit, elle veut passer au niveau suivant, elle croit que je sais pas. Ah oh ouais, 4 ans d'enfer, les copains. Et d'ailleurs, je vous dis, en fait, c'est ma faute à moi. Je suis resté 4 ans avec elle. Pourquoi je lui ai pas dit avant? Je lui ai dit, j'étais lâche. Il y avait plein d'occasions de lui dire. Parfois, il me dit, on mange quoi ce soir? Tu sais pas sucer. J'aurais pu le dire à ce moment-là. J'aurais pu le dire à ce moment-là. Tu me passes le sel, tiens, et tu sais pas sucer. Communiquer entre vous, je vous jure. Après, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'ai compris. En fait, le problème dans les relations amoureuses, c'est qu'on a peur de faire mal à l'autre. On n'ose pas dire à son partenaire que c'est pas fou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne le dit pas directement, on met des indices. Le seul problème, c'est qu'il y a que toi qui peux décortiquer le code, donc personne ne comprend jamais rien. Avec mon ex, j'essayais, hein, parfois on prenait le métro, elle me disait « On est sur quelle station déjà ?»«
Rue de la Pompe. » Parce que pour l'instant, on est à « Fille du Calvaire. »
Ah, Peur qui font rire la France.
Prêt? Allez découvrir? On vous attend à la pause déj
pour la plus grande scène virtuelle de France. Midi 14h sur Rire et Chanson, c'est le 100% nouvelle génération. Rire et Chanson Sketch, la seule radio digitale qui vous offre en non-stop les plus grands sketchs des stars du rire.
C'est fini, je prends plus métro à Paris, je prends Uber. Vous connaissez Uber? L'application magnifique, tu cliques sur l'application, une berline allemande vient te chercher. Le chauffeur est en costume et très souvent dans Uber, le chauffeur, c'est un noir ou un arabe. Je pense que l'application, ils auraient dû l'appeler Rubber. C'est plus léger.
Rire et Chanson Sketch, l'une des nombreuses radios digitales de Rire et Chanson. Disponible gratuitement sur l'appli Rire et Chanson et sur rireetchanson.fr.
Rire et Chanson, 20h
minuit. 20h
minuit. Bonne soirée avec les stars du rire.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, messieurs, dames, j'aimerais donc, si vous me le permettez, vous présenter mon nouveau projet économique. Donc, pour relancer l'économie, il faut à la fois travailler plus pour augmenter le pouvoir d'achat et à la fois avoir plus de temps pour effectuer les achats dont on vient à l'instant d'augmenter le pouvoir. C'est pourquoi je me suis dit que 7 jours dans une semaine, c'était beaucoup trop court pour faire tout ça. J'ai donc décidé de créer un jour supplémentaire dans la semaine, le Curdi, que j'ai placé juste après le mercredi, qui est le jour des enfants et auquel on ne peut pas toucher puisque ça leur appartient. Ce qui nous donne la semaine suivante, lundi, mardi, mercredi, Curdi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme il fallait également pouvoir profiter de ce nouveau pouvoir d'achat, j'ai décidé de créer un jour supplémentaire dans le week-end, le Glamanche, que j'ai placé juste après le dimanche, qui est le jour du Seigneur et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça lui appartient. Et d'ailleurs, le Glamanche permet d'éviter le fameux blues du dimanche soir. Eh oui, puisque le dimanche n'est plus veille de reprise du travail. Hein, et personne n'osera déprimer un Glamanche. Qu'est-ce que tu as fait, Glamanche? J'ai déprimé, ça n'a aucun sens. Non, non. On dira plutôt, qu'est-ce que tu as fait, Glamanche? Eh bien, je me suis promené, oui, tout à fait. Ou alors, oui, madame? Oui, je me suis promené, tout à fait, par contre, je viens de le dire. Ou alors, oui, voilà, j'ai acheté une voiture, bravo monsieur, une vente de plus pour l'usine de voitures qui a travaillé d'arrache-pied tous les Kurdis soirs jusqu'à 27 heures. Oui, parce que la journée du Kurdi dure 41 heures, hein? Alors, d'après mes calculs, ces 2 jours supplémentaires rapporteront à l'État environ 667 millions et quelques d'euros par an, ce qui est bien, hein, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de créer 2 mois supplémentaires dans l'année, les mois de Grouvier et de Javembre. Ce qui nous donne l'année suivante, janvier, février, Grouvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, Javembre, décembre. Ça va? Bien, alors, le seul petit problème que ce projet va rencontrer, c'est que cela va sensiblement décaler les fêtes de Noël. Hein. On va se retrouver à faire nos achats de Noël au mois de javembre, ce qui n'est pas chose aisée puisque le mois de javembre ne dure qu'une semaine. Alors, messieurs, dames, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce projet économique n'a pas à ce jour encore été accepté. D'ailleurs, aucun éditeur n'a voulu publier mon nouveau calendrier. J'ai d'ailleurs été obligé de poser moi-même sur les 14 mois de mon calendrier. Bien, pour conclure, j'aimerais à présent demander à toutes les personnes qui pensent que ce projet économique n'est pas réalisable de quitter la salle immédiatement. Bon, ben, je crois que c'est clair.
Yeah.
Sur Rire et Chanson toute la journée,
les stars du rire vous accompagnent.
C'est du rire nouveau tous les jours.
Ouya Franck Dubosc. Comment ça fait plaisir?
Écoute, je faisais mon petit marché près de Bab el Mansour. On m'a dit que t'étais chez nous à Marrakech. Mahababik! Mahababik, Jamel!
Tantik Sahar, merci beaucoup.
Mouklabes?
Ça va, Labes.
Mouklabes?
Labes, alhamdoulilah, ça va bien.
Mouklabes?
Khaï, Labes.
Kouchou Labes?
Kouchou Labes, alhamdoulilah.
Labes?
Labes, alhamdoulilah.
La famille Labes?
Labes, ça va, c'est bien.
La voiture Labes?
La voiture, ça va très bien.
Le festival Labes?
Festival, alhamdoulilah, y'a rien à dire, merci beaucoup.
C'est bien. Et sinon, ça va?
Ah, très bien, Franck, ça me fait plaisir de te voir. T'es installé ici, alors ça y est.
Ah, ouais, ouais, depuis le festival de l'année dernière, j'ai pas bougé, depuis que j'ai.
Ah, depuis la circonscription.
Eh oui, quick, quick.
Ouais.
L'aigle royal s'est envolé vers la France et moi, je suis resté ici, diminué, mais heureux. Alhamdoulilah.
C'est super ça. C'est quoi cette moustache là?
Jamel. Ici, un homme sans moustache, c'est une femme.
Et t'aurais pas un peu grossi, là?
Starfellah, Jamel. Pourquoi tu dis ça? Attends, non, depuis que je suis ici, je fais très attention à ce que je mange. Le matin, le café avec les méchouquettes.
Après... Méchouquettes? C'est quoi les méchouquettes?
Ben, les méchouquettes, c'est des chouquettes, mais fourrées à la viande de méchoui. Je suis pas contre une petite corne de gazelle de...
And we are listening to Starter FJ by Hacky Mackley.
Starter FJ.
Looking for a party, ain't a single one inside. producteur new disco allemand Purple Disco Machine et son dernier single Gaston. Allez, du son comme ça, on en a plein pour vous, hein. Jusqu'à 23h, des exclus, des nouveautés, House, Tech House, Afro House, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Les Montrouges qui se préparent, David Guetta également, ou encore J.O.T. Vanelli. Et ça, c'est dans une poignée de secondes. Ne nous éteignez pas et un bel été avec nous sur FG.
FG fait un carton en audience.
Vous êtes 265 000
à nous écouter tous les jours.
FG progresse de 12% en un an
et gagne 29 000 auditeurs.
Plus 19% en Ile-de-France
et 27% à Marseille.
Merci à toutes et à tous.
FG, c'est vous.
Source IR local 23-25 et IR Ile-de-France cumul annuel 24-25. Audience cumulée lundi vendredi 5h24. Starter FG avec Original. Le nouveau parfum pour homme de Lacoste. Starter FG.
This is Lady Gaga.
This is Swedish House Mafia.
And I'm listening to Starter.
Starter FG.
By Hakim Akli.
Hakim Akli.
The kind of man that I adore is the kind of man that gives me more of all the better things in life that aren't free. Such things as Summer by the Sea, the Hamptons, Malibu, Capri. I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? I spend hours by the phone, where is my baby?
invités,
exclus,
inédits.
C'est ma sélection.
C'est la sélection d'Aki Makli.
Salut, c'est Aki Makli.
Yeah.
Créez vos playlists avec la sélection d'Aki Makli.
Tout sauf une ronde.
Montrouge, dédicace chez vous à Marseille, 100.5 FM et la suite du Starter FG avec les Turanica, voici Better Off Alone.
Starter FG.
Just à l'instant, c'était Somber dans l'heure du crime sur RTL.
RTL.
Bonjour, ici Christophe Bourou.
RTL, l'été dans le rétro.
Je vous retrouve avec plaisir chaque week-end, le samedi et dimanche matin, pour un été dans le rétro. Toutes les innovations qui ont changé la vie de millions d'automobilistes, du premier péage aux voitures qui se garent toutes seules. On se retrouve dans RTL Matin. Alors, à demain.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire du Sulky Bar, le patron de ce café de l'Oise, Gérard Ponthieu, a été massacré au tournevis en septembre 97. Son épouse avait été condamnée à 15 ans au terme d'une procédure interminable. Elle a fait appel 13 ans après les faits. Voici l'heure du verdict. Vendredi 26 mars 2010, Jacqueline Ponthieu, 60 ans, brushing rouge frisé, imperméable noir, est acquittée pour le meurtre de son mari. C'est un jour de joie, c'est la liberté après 13 ans d'enfer. Je vais pouvoir revivre, retrouver mon fils, l'embrasser, confie-t-elle au journal Aujourd'hui en France. Elle ajoute, dans cette affaire, il n'y a pas de gagnant ni de perdant, car on ne retrouvera jamais qui a tué Gérard, un homme qu'on aimait tous. Jacqueline Ponthieu s'est faite oublier. Quant à la justice, elle n'a effectivement jamais retrouvé le meurtrier de Gérard Ponthieu.
Pour moi, c'est un tel soulagement, un tel soulagement. Je ne suis plus accusée, je ne l'ai pas droguée, je ne l'ai pas empoisonnée, je n'ai rien fait. Mais là, on le prouve. Là, c'est prouvé.
Jacqueline Ponthieu, qui témoignait dans « Faites entrer de l'accusé » qui avait été diffusée en 2010. Maître Hubert Delarue, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocat au barreau d'Amiens, avocat de Jacqueline Ponthieu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a cet acquittement. Alors évidemment, les avocats, je suppose que vous êtes ravis, mais alors l'accusé, c'est la joie est démesurée. Qu'est-ce qu'elle vous dit à la suite de cet acquittement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle vous raconte?
Au moment où l'acquittement est prononcé, bon, on s'y attendait, hein, pour être totalement franc, hein, bon, voilà. Mais le délibéré est rapide, le président revient, elle est acquittée. Et là, cette femme, elle, il n'y a pas d'exubérance, si vous voulez, elle s'effondre. Moi, je vois, elle tombe dans les bras de Franck, dans les miens, elle pleure, voilà, elle est aux larmes, elle s'est là, mais voilà, c'est la fin de 13 ans. Elle n'est pas loquace, hein. Elle n'a jamais été.
D'ailleurs. Jamais, jamais.
Elle dit, vous saviez que ce n'était pas moi, mais je n'ai pas tué mon mari. Bon, voilà, et puis on sort du palais. Bon, mon cabinet n'est pas très loin, on est à 60 mètres à peu près, et on se retrouve tous, les journalistes sont là, les amis, ceux qui l'ont soutenu, le bâtonnier Bouly qui était à mes côtés, etc. Et puis on va donc prendre un verre. Bon, voilà, on va prendre un pot, hein. Je ne sais plus quelle heure il était, mais il était pas très très tard, mais enfin c'était fin d'après-midi, début de soirée. Et là on est chez moi, on monte, mon cabinet est en bas, mon appartement à l'époque était au-dessus du cabinet. Et alors on monte et je vois cette scène comme si c'était hier. On est dans la cuisine et on est en train de déboucher les bouteilles. Bon, vous dire les choses, on débouche, etc. Et puis je vois qu'à un moment Jacqueline se dirige vers la poubelle. Bon, et je sais pas, j'ai quelque chose qui me fait dire que ça va pas bien. Et je m'approche d'elle, tu vois, c'est une poubelle à pédale, un puce à pédale. Et là, je vois qu'elle a dans la main, mais une poignée remplie de petits cachets blancs. Et là, elle retourne sa main et paf, ça tombe dans la poubelle.
Elle les jette.
Et je lui dis, mais c'est quoi ça, Jacqueline? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Nimède, je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais on m'avait condamné pour un crime que je n'ai pas commis, eh ben, la peine de mort, je me la serais donnée à moi.
Ouais.
Le soir même, j'avais tout prévu.
C'est quelque chose qui vous a frappé. Ça.
J'avais tout. Et là, c'est un peu. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont. Michel Marie, qui était à côté de moi, Michel, il a vu la scène, on s'est regardé tous.
Journaliste.
Les deux. Journaliste. Journaliste.
Nouveau détective.
Détective, voilà, un très vieux copain. Et alors, on s'est regardé tous les deux, on n'a rien dit. On s'est dit. Et il m'a dit, oh, bah, les gens. Heureusement qu'avec Franck, vous l'avez fait acquitter. Mais je dis, écoute, j'en reviens pas. Jamais, elle n'en a jamais parlé. C'est dire aussi combien cette femme restait mystérieuse dans son comportement, dans sa façon d'être.
Jusqu'au bout,
il y a une part d'énigme chez cette femme, c'est certain. Pour autant, la conviction que nous avons, que j'ai, hein, bon, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais il y a des moments, j'ai acquitté des gens. dont je n'étais pas forcément totalement convaincu qu'ils étaient innocents, mais qu'en tout cas, l'accusation n'avait pas rapporté la preuve de leur culpabilité. Mais sur elle, je n'ai pas de doute.
Vous n'avez pas de
doute ? J'ai pas de doute. Bon. Mais c'est une personnalité particulière, complexe. Voilà.
Est-ce que c'est cette histoire qui est interminable, hein, plus de 10 ans de procédure, est-ce que ce n'est pas la faillite des experts ?
Si.
Est-ce qu'on
fait pas de très bons livres là-dessus?
On a fait trop confiance.
Quand les experts se trompent. Et si vous voulez, je pense qu'il y a une conjonction. Les magistrats ont tort, à mon avis. Bon, ils peuvent nous faire des reproches, on peut leur en faire de temps en temps. De considérer que quand un expert, à la Cour de cassation, à la Cour européenne, je ne sais où, un pharmacologue, évidemment connu dans le monde entier, dit quelque chose, c'est forcément vrai. Mmh. Et je pense que là, le juge aurait été. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait, je ne sais pas. Peut-être que l'avocat de l'époque ne l'a pas demandé, je ne sais pas. Mais il aurait fallu, à côté de l'expertise de Pépin, en demander une autre, puisque cette femme était arc-boutée. Elle a dit des sottises dans sa garde à vue, c'est incontestable. Mais il y a une chose sur laquelle elle était arc-boutée, elle a dit « J'ai jamais drogué mon mari. »
Et je ne sais pas ce qu'est ce GHB.
Je ne l'ai pas tué. Mais en tout cas, elle disait « Je ne l'ai pas drogué, je ne sais même pas ce dont quoi vous me parlez. » Eh bien, on aurait pu demander une contre-expertise tout de suite, et que peut-être, on aurait dès le début vu que M. Pépin, avec toutes les qualités qui étaient les siennes, s'était lourdement trompé.
Un mot, Jacqueline Ponthieu, vous avez eu des nouvelles après, ou vous l'avez perdu de vue ?
Un petit peu, mais je crois qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on l'oublie. Voilà. Il m'a dit, vous comprenez, j'ai vécu 13 années d'un calvaire absolument incroyable. Vous avez vu toutes ces stations de chemin de croix qu'elle a vécu. Et je crois qu'elle a voulu tourner totalement la page, et ni de près ni de loin. Je l'avais vu d'ailleurs pour des acquittés d'Outreau pareillement. Ne plus avoir de contact. Certains ont voulu garder des contacts dans certaines affaires. Là, elle a fait partie de ceux qui ont voulu totalement tourner la page et avec tout ce qui avait participé à ces 13 années qu'elle avait vécu. Elle nous a été reconnaissante, elle m'a envoyé une lettre extrêmement émouvante. Pour autant, je crois qu'elle n'a plus voulu, garder de contact avec tous ceux qui étaient intervenus de près ou de loin dans cette affaire.
Il n'y a plus beaucoup de traces de cette affaire. Le bar, le sulky, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Ben, si vous voulez, quand elle a été mise en prison, évidemment, le bar a été vendu. J'ai envie de dire, le bar a été bradé, tout a été. Eh bien, elle avait fait 26 mois de prison. Il a fallu, dans l'urgence, vendre tout ça, brader tout ça. Il n'y avait pas d'autre solution. Voilà. Alors ensuite, elle a fait un recours en indemnisation. Nous l'avons suivi sur l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée, également sur la perte du patrimoine. Mais vous savez, la justice n'a pas toujours, avec l'excuse, c'est pas toujours la politesse ou la politique de l'excuse. Bon, elle a été indemnisée, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'elle a souffert, par rapport à ce qu'elle a vécu à titre personnel, à titre patrimonial, franchement, c'était pas grand-chose.
Et donc, du coup, cette affaire Gérard Ponthieu, c'est un cold case, hein, c'est pas résolu. Hein,
oui, mais là, c'est
en quelques mots.
C'est la faute de l'institution, parce que si on avait fait dès le début les investigations nécessaires et qu'on avait écouté le maître chien Lefort, peut-être, on aurait abouti à une solution et on aurait su qui avait tué ce pauvre Ponthieu. Gérard Ponthieu, absolument.
Merci infiniment, maître Hubert Delarue, c'était passionnant. Merci d'avoir été invité de l'ère du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation en direct Jonathan Griveaux.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Vendredi 1er août. Demain, dans la seule émission Radio 100% fait divers, l'affaire Jérémy Rimbaud, le cannibale de la Haute-Garonne. Cet ancien militaire a tué un homme pour dévorer son cœur et sa langue. Les secrets d'un mangeur d'hommes. L'heure du crime. Demain, 21h sur RTL. Dans un instant, juste après les infos, on va retrouver les grands classiques de la musique avec la